Chapitre 50. Je n'ai pas dormi de la nuit. Comme si mon cerveau avait conscience que ce rendez-vous marquerait une étape, les souvenirs sont entrés par effraction. Quand j'étais petite, nous partions chaque été en camping dans les Landes, avec ma tante paternelle Marie-France, son mari et mes trois cousins. Les parents dormaient dans la caravane, et nous, les Minus, dans des tentes canadiennes dont nous étions tirés à l'aube par les rayons du soleil et le klaxon de la fourgonnette du boulanger. On petit-déjeunait d'un bol de chocolat chaud et de tartines de pain frais à l'ombre des pins, avant d'aller faire la vaisselle au sanitaire commun, tâche qui finissait inévitablement en bataille d'eau. L'après-midi, nous prenions la direction de la plage, à pied, parasol, crème solaire et serviette de bain sous le bras. On traversait les dunes sur les caillebotis brûlants, l'air iodé gonflait nos poumons, et nous avions à chaque fois le souffle coupé en arrivant face à l'immensité de l'océan. On avait le droit de se baigner dans la zone surveillée, mais uniquement après avoir digéré et s'être mouillé la nuque. Mon père et mon oncle jouaient au ballon sur le sable mouillé. On ne tardait jamais à les rejoindre. Le soir, nous allions nous balader dans la rue piétonne de Mimizan. Ça sentait le monoeil et les gouffres. Mon père nous achetait toujours des gourmandises, des chichis ou des chouchous. J'ai su plus tard que la plupart des gens appelaient ça des churros et des pralines. Ma mère râlait, on allait grossir. Mais on s'en foutait, c'était les vacances. Je n'ai jamais vu mon père plus heureux que pendant ses parenthèses estivales. Loin de l'usine où il s'abîmait le dos, loin des contraintes, au plus près de sa liberté chérie, il vivait. Lucie, la gériatre, exerce au centre de la mémoire qui se situe dans le prolongement d'un EHPAD. Le parking est saturé. On doit se garer plus loin et s'y rendre à pied. Mon père peste à chaque pas. Nous marchons derrière un couple de personnes âgées. L'homme tient sa femme par le coude et répond inlassablement avec une patience émouvante à une question qui revient en boucle.
On rentre bientôt à la maison ?
Oui, bientôt.
On rentre bientôt à la maison ?
Oui, bientôt. J'ai envie de pleurer. Nous marchons juste derrière notre avenir. La matinée s'écoule comme annoncée par la secrétaire. Pendant que mon père rencontre le psychologue, qui va évaluer son comportement, ma sœur et moi sommes reçus par l'infirmière, qui cherche à connaître les signes qui nous font penser à une maladie. Elle se saisit des résultats du scanner et de l'IRM et remplit plusieurs documents en nous posant des questions très précises. Elle parle d'une voix douce, qui amortit un peu l'âpreté de la situation. Une fois l'entretien terminé, nous inversons. Le psychologue est un jeune homme souriant qui nous interroge sur les difficultés de notre père, mais également les nôtres. Il nous apprend l'existence de groupes de parole et d'associations pour soutenir les aidants. Je prends les coordonnées. Mon père semble avoir fourni des réponses très différentes des nôtres. « C'est courant », nous informe le psychologue. « Les patients n'ont souvent pas conscience de leurs difficultés. Ils sont persuadés que rien n'a changé. » Je me demande si c'est le cas. Mon père ne se rend-il pas compte de ses flottements ou ne veut-il pas en parler ? Je préférerais la première option. Cela signifierait que son cerveau est endommagé au point de distordre la réalité. Dans ces circonstances, la pire ennemie est la lucidité. Entre deux rendez-vous, on poirote sur des chaises en plastique en cherchant de l'espoir sur les affiches accrochées au mur.
« Regarde !»
chuchote Adèle en désignant une liste de symptômes écrite en gros caractères.
« Papa n'a pas de trouble du langage. C'est plutôt rassurant. »
J'acquiesce. Je suis prête à me blottir dans la moindre raison d'y croire. Mon père nous rejoint l'air bougon. Il branche son téléphone et s'assoit en silence. Pas besoin d'interprète pour comprendre qu'il boude.
« Ça va, papa ?»
je demande. « À merveille, t'auras une corde ?»«
Ça te remue ?»
questionne ma sœur. « Ça m'emmerde. Le vendredi, c'est le jour des offres en or au téléachat. » Lucie vient nous chercher. On se salue. Elle me demande des nouvelles de Charlie pendant que nous marchons vers son bureau. On s'assoit face à elle, le père encadré par ses deux filles. Elle ne perd pas de temps, pèse ses mots, mais ne les dégraisse pas. Elle s'adresse à mon père, le regarde au fond des yeux. Plusieurs zones du cerveau sont touchées. L'IRM montre des lésions importantes. Le sang n'y circule pas correctement. Les tests passés avec le psychologue et l'infirmière révèlent une légère atteinte de la mémoire, mais surtout des difficultés d'attention, de concentration et d'organisation. L'attention ne se fixe pas, elle s'envole immédiatement, d'où les oublis. Une apathie est également décelée, qui explique le manque d'enthousiasme et d'initiative. C'est bizarre d'être à la fois dévastée et soulagée. Il y a quelque chose. Mon père est vraiment malade. Mon père est malade. Mon père est malade. Je tourne la tête et l'observe. Il écoute en hochant la tête. Je me demande s'il comprend. Les épaules de ma sœur se sont affaissées. Ça ne ressemble pas à Alzheimer, poursuit Lucie. Je pense que c'est plutôt lié à un problème de circulation sanguine. Il faudrait faire un bilan cardio. J'aimerais que l'on mette en place des séances de rééducation de l'organisation et de la planification avec un orthophoniste. Il y en a une très bien à côté de chez vous. Vous avez du mal à effectuer une tâche jusqu'au bout. Ça peut vous aider? Vous seriez d'accord?
J'en sais trop rien,
répond mon père. Ça va te faire du bien! Je m'exclame avec beaucoup trop d'enthousiasme. La gériatre argumente, elle assure que ce serait bénéfique. Il faudrait aussi que mon père marche au moins une demi-heure par jour pour améliorer sa circulation sanguine et l'oxygénation de son cerveau. J'attends le dernier moment pour poser la question qui pourrait anéantir tout espoir. J'ai envie d'en poser des milliers, mais je n'arrive toujours pas à parler de lui devant lui comme s'il n'était pas là. Je ne sais pas si on s'y habitue un jour, à devoir traiter son parent comme un enfant. Lucie, ça ne peut plus évoluer ? Elle jette un coup d'œil au document et me sourit tristement. Si on maîtrise tous les facteurs de risque, diminution de la cigarette, marche quotidienne, orthophoniste, je pense que l'on peut ralentir l'évolution. Mais cela semble être dégénératif. Je caresse le bras de mon père. Il ne réagit pas. Le tableau n'est pas classique, poursuit-elle. Certains résultats sont très intrigants. Monsieur Piccoli, j'aimerais poursuivre les investigations, si vous le voulez bien. Il existe un examen qui s'appelle une scintigraphie cérébrale et qui nous permettrait de voir le fonctionnement de votre cerveau en détail. Je voudrais vous prendre rendez-vous, c'est à l'hôpital. Qu'en pensez-vous ? Il baisse la tête, fixe ses mains pendant plusieurs secondes, puis plante ses yeux dans ceux de Lucie.
Ça dépend. Les infirmières sont mignonnes.